Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux États-Unis où le la de la campagne présidentielle a été donné cette semaine avec la première étape des primaires dans l'Iowa. C'était lundi dernier, 1er février, des primaires qui vont se poursuivre jusqu'à l'été pour culminer entre les 18 et 21 juillet prochains avec la convention républicaine suivie une semaine plus tard par la convention démocrate. L'élection ayant lieu le 8 novembre, prochaine étape de la campagne, le New Hampshire avec la primaire du 9 février qui pourrait donner un début de réponse aux questions que nous nous posons ce week-end avec nos invités. Par téléphone, Julien Zarifian, maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Cergy-Pontoise, docteur en géopolitique, spécialiste de la politique étrangère américaine. Bonjour.
Bonjour.
Maya Candel, responsable du programme sur les États-Unis à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et chercheur associé à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Bonjour.
Bonjour.
Et Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales que nous attendons d'un instant à l'autre. Analyse des résultats du caucus de l'Iowa, un assez grand décalage finalement entre les succès qui étaient annoncés et les choix de la base, tant démocrate que républicaine. On attendait Donald Trump, on a eu Ted Cruz, le sénateur conservateur du Texas. On attendait Hillary Clinton du côté démocrate. Elle est arrivée en tête, mais très étroitement, tant elle est suivie de près par Bernie Sanders. Julien Zarifian, ces résultats, est-ce qu'ils vous étonnent? Et finalement, quelles questions au-delà se posent aujourd'hui dans les deux camps, républicains et démocrates? Julien Zarifian.
Oui, des résultats effectivement un peu surprenants, surtout du côté républicain, où c'est vrai que Trump était quand même annoncé très clairement en tête. Côté démocrate, c'est peut-être un peu moins le cas. Mmh. Ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois, que Bernie Sanders grimpe dans les sondages et montre qu'il peut faire jeu égal avec Hillary Clinton, en tout cas dans certains États du Midwest, en particulier de la côte Est également. Donc une surprise, en demi-teinte. C'est vrai que c'est quand même très serré côté démocrate. On aurait pu quand même supposer que Hillary Clinton se dégage un petit peu plus. Mais comme je vous l'ai dit, Sanders rassemble, visiblement, à le vent en poupe, les sondages l'indiquent. Bon, côté républicain, c'est vrai que Cruz, c'est un peu la surprise quand même. Bon, mais des résultats finalement assez équilibrés s'agissant des trois premiers qui sortent en tête des caucus de l'Iowa, puisque Rubio, qui est donc troisième, Marco Rubio, n'est pas très loin non plus, avec 23%, je crois. Donc, on est finalement sur un résultat relativement serré côté républicain. Donc, la primaire, véritablement, est ouverte et les caucus de l'Iowa ne donnent pas tant d'indications que ça, de mon point de vue, mais c'est souvent le cas, quant à la suite de ce scrutin des primaires.
Alors, pas d'indications, en tout cas, des surprises, on les a évoquées. Et il est évident aussi que la primaire de cette semaine, mardi 9 février, dans le New Hampshire, pourrait peut-être apporter quelques réponses. Maya Candel, vous partagez ce que vient de dire Julien Zarifian?
Oui, je dirais même que, comme l'évoquait Julien Zarifian, la surprise de l'Iowa, c'est non seulement que Trump ne soit pas arrivé en tête, mais en fait que Trump a failli être troisième, puisqu'il est arrivé avec 24%, Marco Rubio est juste derrière avec 23%. Et une des grandes surprises, peut-être, c'est que finalement, ce qui s'annonce comme le candidat de l'establishment, s'est dégagé très clairement dans ses primaires de l'Iowa. Et ça pourrait avoir une évolution. Alors, il faut voir si ce résultat est confirmé mardi. Dans le New Hampshire, mais ça pourrait avoir une incidence rapide sur les abandons d'autres candidats de l'establishment, et on aurait alors assez rapidement une course à trois, ce qui serait une originalité par rapport aux années antérieures. C'est vrai que traditionnellement on a un favori ou quelqu'un qui est en tête et un challenger. Là on aurait une course à trois, ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes côté républicain, bien sûr.
À trois, Maya Candel ?
C'est-à-dire Trump, Cruz et Rubio.
Trump, Cruz et Rubio, Laurence Nardon qui vient d'entrer dans le studio, en tout cas course à trois, alors avec cette question aussi qui est évoquée quand on lit la presse américaine, c'est une éventuelle candidature du milliardaire en dollars, Monsieur Bloomberg, Laurence Nardon.
Oui, effectivement, il a évoqué cette possibilité. Je ne sais pas s'il faut y croire à ce stade. Il y a Joe Biden, l'actuel vice-président, qui avait dit qu'il ne se présentait présenterait pas après avoir très longtemps hésité, et dont des rumeurs recommencent à dire qu'il pourrait lui aussi arriver comme le sauveur dans une campagne où effectivement du côté droit on a deux candidats extrémistes pour des raisons différentes. Donc nous avons le populiste Trump très xénophobe et provocateur, nous avons le conservateur religieux extrêmement idéologue qui est Ted Cruz. Et puis Marco Rubio, effectivement, qui serait le candidat de l'establishment du parti. En tout cas, c'est comme ça qu'il risque fort de se positionner maintenant, alors même que son pédigré est un peu plus compliqué.
Alors Marco Rubio, qui est un peu la surprise d'une certaine manière de ce résultat du caucus dans l'Iowa, il est évident que la primaire qui va se dérouler cette semaine, je me tourne vers vous Julien Zarifian, dans le New Hampshire. Quelques mots peut-être sur Marco Rubio, il est évidemment beaucoup plus modéré que Ted Cruz et pourrait être finalement beaucoup plus un challenger face aux démocrates et probablement Hillary Clinton, Julien Zarifian.
Oui, sans doute que la candidature de Rubio, in fine, serait plus valable face à Hillary Clinton d'un point de vue républicain. Bon, on n'en est pas encore là. Finalement, une des surprises, même si on s'y attendait, c'est effectivement que dans l'Iowa, deux candidats radicaux à leur manière, comme l'a indiqué Mme Nardon, fassent quand même plus de 50% parmi l'électorat républicain de cet État. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même normal qu'à un moment donné, en troisième position, surtout que le quatrième, Carson, est aussi quand même très très conservateur. Donc c'est quand même normal, de mon point de vue, qu'à un moment donné, on ait un candidat républicain plus modéré, proche de l'establishment. Donc voilà, Rubio, à sa manière, représente quand même un courant important, et en tout cas est en passe de le faire. Et donc c'est normal à un moment donné que ce courant-là existe aussi, quoi.
Alors pour ce qui est des candidats de l'establishment, il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé, c'est celui de Bush, Jeb Bush. Ce qu'on voit pour cette campagne, pour l'élection de novembre prochain, c'est finalement une multitude de candidats. Côté républicain, ils sont extrêmement nombreux. Évidemment, au fil des primaires, tout cela va un petit peu s'étioler et il y aura davantage de clarté sur le panorama. Il n'empêche que cette multiplicité de candidatures nous apprend quelque chose sur l'état du système politique américain. Je vous pose la question à toutes les deux, Maya Kandel, Laurence Nardon. Maya Kandel.
Bon, d'une part, en 2012, il y avait aussi beaucoup de candidats. Les primaires républicaines n'avaient pas duré si longtemps que ça, parce que finalement, Romney s'était dégagé vers le mois de mars déjà. Mais enfin, on avait jusqu'au début des primaires, on avait un candidat en tête chaque mois différent. Voilà. Ce que je trouve très particulier dans cette campagne, c'est évidemment la candidature de Trump et son succès. Et au-delà, en fait, c'est que finalement, depuis 3-4 décennies, les primaires républicaines pose toujours une question par rapport au conservatisme, en fait, du parti. Jusqu'à quel point faut-il être conservateur? Et en général, on a un conservateur qui réussit bien dans les premières primaires des États du Sud, et puis un candidat de l'establishment. Et là, en fait, on a Trump qui, finalement, ne pose pas la question tant des valeurs, mais finalement est sur une campagne de classe sociale, ce qui est assez intéressant aux États-Unis parce que c'est quelque chose de peu fréquent. Les gens qui votent pour Trump sont des gens qui ont un sentiment de déclassement. C'est une classe moyenne blanche, appauvrie, qui se sent lésée par tout ce qui constitue la modernité, la mondialisation, etc. Et donc c'est un des ressorts et c'est ça, je pense, qui fait vraiment la différence cette année. Et juste une petite note, on parle de Marco Rubio comme candidat de l'establishment. C'est intéressant parce que Rubio a été élu en 2010 sur la vague des Tea Party, de ce qu'on appelait le mouvement Tea Party, donc plutôt un mouvement anti-establishment. Et ça en dit long, je pense, sur les désarrois du, justement, ce qu'on appelle l'establishment républicain, que finalement Rubio soit leur favori, peut-être par défaut aussi.
Et donc Marco Rubio qui aurait glissé d'une certaine manière pour quitter la partie extrême du Parti républicain, Laurence Nardon.
Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il a un pédigré plus complexe. Il s'est repositionné comme candidat de l'establishment. Jeb Bush a fait une campagne si décevante, il y avait une place à prendre. Mais si vous permettez, je voudrais poursuivre sur ce que disait Maya Kandel, qui est très juste, comme lorsqu'elle dit que Trump, finalement, représente des gens qui sont de classe sociale, classe moyenne, moyenne, classe moyenne inférieure. Il y a une analyse qui commence à sortir dans beaucoup de médias américains, notamment dans le dernier numéro de The Atlantic, pour justement essayer d'expliquer le succès de Trump. C'est David Frum qui fait ça dans ce journal. Il explique que depuis des décennies, en réalité, l'establishment du Parti républicain, enfin les candidats, on va dire mainstream, entre guillemets, finalement, ont trahi cette classe moyenne en défendant en réalité toujours leurs riches donateurs, le big business, Wall Street, c'est-à-dire qu'ils font des programmes d'exemption fiscale pour les riches, on se souvient des Bush tax cuts dans les années 2000, et aussi en favorisant l'immigration de travail que leur demandent les grandes entreprises américaines. Et ça, c'est évident, ça fait très peur aux classes moyennes qui se sentent déclassées. Et c'est là-dessus que Trump a été très fort, parce qu'il n'est pas du tout sur un discours radical idéologue comme Cruz. Et il attaque par ailleurs les hedge fund managers, c'est-à-dire les grands financiers. Il promet de supprimer leurs exemptions fiscales. Et puis là, comme on sait, ce discours extrêmement terrible, vraiment agressif sur l'immigration. Et ça, en réalité, ça rassure ces classes moyennes. Et c'est pour ça qu'elles disent vouloir voter pour lui, et que chaque fois qu'il a sorti des énormités sur les latinos ou que sais-je, loin de s'effondrer dans les sondages, il n'a fait que grimper ces derniers mois.
Alors finalement, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir pourquoi on l'attendait dans les caucus de l'Iowa. Bon, bien sûr, il est trop tôt pour déterminer les choses de façon définitive. Il n'empêche que il n'était pas au rendez-vous dans l'Iowa autant qu'on pouvait l'espérer. Je ne sais pas si Julien Zarifian, vous voulez répondre, et je vous redonnerai la parole, Laurence Nardon. Julien Zarifian.
Oui, c'est exact. Après, il y a une polémique qui est en train de naître sur les primaires dans l'Iowa, et apparemment des coups bas de Cruz, qui serait parvenu ainsi à capter certains électeurs qui auraient pu lui faire défaut et partir chez Carson autrement. Donc bref, moi je pense que la conclusion, c'est quand même qu'on est sur un résultat très très serré, qu'il faut attendre, que l'Iowa, c'est un élément, effectivement, ça c'est un indicateur, mais bon, ça en dit pas beaucoup plus que ça, et c'est dans les jours et les semaines qui viennent qu'on va voir si Trump, comme les sondages continuent de l'indiquer, se dégagera côté républicain ou non. Et si, bon, on peut aussi imaginer un retour d'autres outsiders qui semblent en perdition, je pense à Chris Christie ou d'autres. Et en même temps, la défection récente, là, ces jours-ci, de Rand Paul, je crois, et de
Rick Santorum, je crois.
Voilà, de Santorum, absolument. Donc, les choses... Moi, je crois que l'analyse initiale que Maya a indiquée me semble exact. Il y a de grandes chances qu'on se retrouve dans une course à trois assez vite. Et puis évidemment, le Super Tuesday du 1er mars va être déterminant.
Bon, en tout cas, bien évidemment, on suivra tout ça. Laurence Nardon, je me tourne vers vous. Ce que j'ai compris de votre intervention précédente, c'était finalement ce grand décalage entre les inquiétudes, les aspirations de la population américaine et la classe politique, et que finalement, un Donald Trump serait le candidat le plus proche. Maya Kandel.
Non, j'allais dire, par rapport à ce que disait Laurence, en fait, il y a en quelque sorte, ce qu'on voit là, c'est l'aboutissement d'un problème qui est propre au Parti républicain aussi, c'est que depuis 30-40 ans, enfin, les républicains ont réussi à faire voter leur électorat contre leurs intérêts économiques, en portant le débat sur la question des valeurs, en fait. Et Trump, lui, a modifié cette question-là. Puisque finalement, Laurence parlait des riches donateurs. Effectivement, les intérêts de ces riches donateurs, de Wall Street, la politique économique du Parti républicain ne profitent pas à leur électorat, ou en tout cas à une bonne partie de leur électorat. Et c'est pourquoi ils avaient porté, on se souvient des années 90, les élections portaient sur la question de l'avortement, souvent. Ensuite, il y a eu la politique étrangère, ce que les politologues appellent les wedge issues, les questions qui peuvent déterminer les électeurs en dépit de leur intérêt économique et social, on va dire. Et là, effectivement, Trump a bouleversé un peu ces règles-là. Alors, c'est assez logique aussi qu'il n'arrive pas en tête, dans un sens, dans l'Iowa, qui est un État absolument pas représentatif, et où, justement, la majorité des électeurs républicains dans les primaires, dans le caucus, disaient qu'ils s'étaient décidés par rapport aux valeurs, justement. Et là-dessus, alors, on s'est beaucoup gossé de l'attaque de Cruz sur les New York Values de Trump, mais à ce moment-là, on a dit, tiens, Cruz s'est ridiculisé. Je pense qu'en fait, dans l'Iowa, il a eu un certain écho, parce que effectivement, c'est un État où les New York Values, les valeurs new-yorkaises, on n'aime pas forcément trop.
Laurence Nardon.
Et je ne sais pas s'il est temps d'en parler dans la structure de votre émission, mais cette trahison des classes moyennes par les élites du Parti républicain, finalement, le succès de Bernie Sanders côté démocrate en est le reflet. Parce que lui aussi, il se positionne pas du tout comme Trump, par exemple, sur l'immigration. Mais c'est un petit, on peut faire un parallèle, parce que lui aussi défend, par rapport à Hillary Clinton, alors elle s'est beaucoup gauchisée dans sa campagne ces derniers mois pour coller à Bernie Sanders, justement. Mais lui aussi porte un discours qui est plus favorable à la classe moyenne, qui est son électorat, et alors avec ceci de différent, qu'il est beaucoup plus porté par les jeunes et les jeunes diplômés. Et par exemple, lui aussi, bien évidemment, veut mettre fin aux exemptions fiscales pour les plus riches. Il a un programme très social-démocrate sur la question de l'immigration. Alors évidemment, il ne va pas avoir un discours aussi affreux que celui de Trump, mais il faut quand même noter que, par exemple, lui est tout à fait contre les traités de libre-échange qui ont été négociés, signés par le pays. Je pense notamment au TPP, qui est le partenariat transpacifique. Et donc, lui, il est contre ces traités de libre-échange parce que ça va délocaliser des emplois. Il veut, au contraire, protéger les emplois de col bleu, col blanc en Amérique. Et ça, c'est une sorte de parallèle au discours anti-immigration de Trump, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va pas être raciste dans ses propos, bien entendu, mais il est contre le libre-échange, ce qui est une manière de vouloir aussi fermer les frontières.
Alors, parler de ces traités de libre-échange, c'est aussi faire la transition. Et je me tourne vers vous, Julien Zarifian, sachant que malheureusement, vous pouvez pas rester avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Avec ces questions de politique étrangère, là, on a parlé d'immigration, la question des traités de libre-échange qui ont été des chevaux de bataille, finalement, d'Obama. La question de politique étrangère dans cette campagne pour la présidentielle américaine. On voit quelques petites notes qui commencent à apparaître, mais évidemment, ça n'est pas... Enfin, finalement, c'est la question, parce que avec l'engagement des États-Unis ou le désengagement et la prolifération des actions terroristes, est-ce qu'on peut imaginer cette année une campagne plus axée sur les questions de politique étrangère, Julien Zarifian ?
Plus axée que les dernières, je ne le pense pas. Mais je pense que les questions de politique étrangère, de relations internationales vont demeurer effectivement pas au top hein, des priorités, s'agissant notamment des électeurs et donc des candidats. Mais les questions de politique étrangère vont quand même demeurer, notamment autour des thématiques de sécurité. On observe dans les études que ce terme-là revient et est quand même placé en général en 3, 4, 5e position, parfois 2e position des attentes hein, des électeurs. Donc de ce côté-là, la politique étrangère, je pense, sera présente dans les débats, mais peut-être plus encore après les primaires. C'est vrai que là, dans les primaires, ça c'est pas des thématiques qui se dégagent. Bon, côté démocrate, on l'aborde peu. Évidemment, Hillary Clinton a cette stature de secrétaire d'État, d'ancienne secrétaire d'État, qui a une très bonne connaissance, une compréhension, connaissance du monde, des dossiers, etc. Et côté républicain, ça me semble beaucoup plus faible globalement. Donc, j'ai l'impression que les candidats n'entraident pas trop pour pas prendre trop de risques et demeurent dans une opposition un peu systématique à tout ce qui a été fait par la présidence Obama.
Maya Kandel, vous partagez ce que vient de dire Julien Zarifian, une minute pour terminer la première partie de l'émission.
La question de la politique étrangère, il y a plusieurs éléments. Alors, il y a quand même une nouveauté là récemment, en particulier dans la foulée des attentats de Paris de novembre dernier, et puis qui ont été suivis par la tuerie de San Bernardino aux États-Unis, en Californie, dont les auteurs se réclamaient de l'État islamique. On a constaté dans les sondages une remontée de la préoccupation des électeurs pour... alors. En fait, pas pour la politique étrangère dans son ensemble, mais justement pour le terrorisme. En fait, il y a une inquiétude, une inquiétude qui en plus est largement exploitée par notamment les candidats républicains. Hein. Les premières publicités de campagne de janvier 2016, il y en avait une qui disait carrément, il y avait une voix off qui disait "The terrorists are coming". Enfin, c'était très très anxiogène. Donc il y a cet élément qui joue. Alors après, traditionnellement, on y reviendra, mais la politique étrangère, elle intervient peu dans le choix des électeurs, sauf exception dont on parlera. Et en tout cas, elle intervient un peu plus tard. Là encore, on est peut-être un peu tôt dans la campagne. l'Allemagne, mais on en parlera tout à l'heure.
On développera dans la deuxième partie de l'émission. Julien Zarifian, merci. Je sais que vous nous quittez pour au terme de cette première partie. Et je rappelle que vous êtes regret partagé, que vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Cergy-Pontoise et spécialiste de politique étrangère américaine. Nous aurons l'occasion de vous avoir à nouveau au fil de cette campagne géopolitique. Nous retrouvons nos deux autres invités, Maya Candel et Laurence Nardon.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la campagne pour la présidentielle américaine de novembre prochain. Nous retrouvons nos invités. Maya Candel, responsable du programme sur les États-Unis à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et chercheur associé à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. À moins d'un an de la fin de son dernier mandat, le président américain a reconnu avoir échoué à recoller les morceaux d'un pays rongé par les inégalités et qui apparaît de plus en plus désuni et divisé. Lors de son dernier discours sur l'état de l'Union, on a senti un président, Barack Obama, en proie à une inquiétude palpable, la peur que l'esprit de division qui prévaut ne mène le pays vers les extrêmes, le repli sur soi et la recherche de boucs émissaires. Obama a parlé de système politique cassé. Laurence Nardon.
Oui, bah c'est vrai que le pays est rongé par des inégalités sociales terribles et un manque de confiance dans les institutions qui est confirmé par les enquêtes les unes après les autres. Et Obama, qui est un président, j'imagine, intellectuellement honnête, ne pouvait pas ne pas le reconnaître dans son dernier discours sur l'état de l'Union. Il a fait ce qu'il a pu, mais c'était difficile. Je voudrais juste peut-être développer un exemple qui est quand même très symbolique de ses tentatives et de ses demi-échecs, c'est sa réforme de santé, Obamacare, qui est vraiment, effectivement, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On sait que grâce à cette réforme, je crois que c'est 18 millions d'Américains qui n'avaient pas de couverture sociale en ont une maintenant, donc c'est très très bien. Et en même temps, il a dû faire tellement de compromis pour mettre en route cette réforme de santé qu'il n'a pas réussi, mais ça aurait été très difficile, à faire plier les compagnies de santé, de médicaments, les compagnies médicales dans le pays, qui font que aux États-Unis, les frais de santé sont les plus chers du monde entier, en fait, on va dire, pour une qualité qui n'est pas du tout à la hauteur. Et c'était ça qu'il aurait fallu réformer à la base. Je voulais juste prendre cet exemple pour dire qu'il a fait ce qu'il a pu et il n'a pas forcément réussi partout.
Maya Candel.
Oui, et au-delà, sur la question de la polarisation et du blocage des institutions, une des grandes ambitions d'Obama, c'était effectivement de dépasser un peu cette polarisation et de revenir à une époque de consensus pour justement faire les réformes nécessaires. Et parce que le problème aux États-Unis, c'est que le Congrès a beaucoup de pouvoir et les règles, qui sont pas des règles issues de la Constitution, mais de la pratique, en particulier au Sénat, font qu'il est extrêmement difficile de faire passer quoi que ce soit en l'absence d'une super majorité de 60 voix. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Obama a fait passer sa réforme de santé et les plus importantes réformes, finalement, de ses deux mandats ont été passées non seulement pendant cette fenêtre qu'il a eue les deux premières années avec un Congrès démocrate, mais même, je dirais, pendant les quelques mois en 2009, où il a eu 60 voix de majorité démocrate au Sénat. Et c'est dans cette fenêtre qu'il a pu faire voter la réforme de santé, une réforme de Wall Street. Bon, et ensuite, en janvier 2010, il y a eu l'élection de Scott Walker, bref, et la majorité est passée en dessous de ces 60 voix. Et à partir de là, il y a eu un retour du blocage qui a évidemment été confirmé et paralysé, même à partir des élections de mi-mandat de 2010, avec la victoire des Républicains du mouvement Tea Party au Congrès. Et donc, je pense que là, il y a une grande déception. On le sentait, Obama le disait, il y a une grande déception de son mandat par rapport à cette ambition de départ.
Alors, sur les questions de politique intérieure, vous l'avez dit, le président américain a agi dans les premières années. C'est un peu le contraire en politique étrangère, hein, où on voit finalement les acquis de politique étrangère d'Obama avoir été particulièrement notables ces 12 derniers mois. C'est peut-être le fruit aussi aussi d'un travail qui a précédé, bien évidemment, mais pour n'en citer que quelques-uns, le deal nucléaire avec l'Iran, la restauration des liens diplomatiques avec Cuba, l'accord sur le climat, et puis un nouveau pacte commercial avec l'Asie que vous évoquiez, Laurence Nardon. Somme toute, des accords qui restent fragiles. Est-ce qu'on peut dire que les efforts de la Maison-Blanche en 2016 ont consisté en une consolidation de ces quatre initiatives de façon à ce qu'elles soient difficiles à défaire en 2017 en cas de victoire des Républicains à la présidentielle, Laurence Nardon?
Oui, effectivement, enfin, vous avez tout à fait raison de dire que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain en 2016. Tous les accords que vous avez cités, les aboutissements que vous avez cités, étaient effectivement dans les tuyaux depuis littéralement des années, puisque notamment le deal avec l'Iran, on sait que les premiers contacts avaient été pris sous Bush, donc c'est quand même très ancien, et ça a mis beaucoup de temps à arriver. Oui, il sera toujours possible à un candidat républicain qui serait élu en novembre prochain de défaire la plupart de ces accords. Hein. Par exemple, je pense au traité transpacifique qui n'est pas encore ratifié, par exemple, par les États-Unis. Sur l'Iran, il est toujours possible que le Congrès vote de nouvelles sanctions qui feraient dérailler l'accord. Un accord qui n'est pas juste entre les États-Unis et l'Iran, il faut le rappeler. Il y a la Russie et un certain nombre de puissances occidentales, dont la France, qui sont partie au traité. Mais enfin, il me semble quand même encore fort fragile. Et puis, il faut rappeler que là aussi, le président Obama avait pris des initiatives très tôt en politique étrangère, hein, à son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2009. Mais peut-être un peu maladroite, on se souvient de ses accrochages avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. C'était vraiment très maladroit. Il lui avait conseillé d'arrêter l'installation de colons dans les colonies et... Le Premier ministre israélien avait réagi assez mal et donc cette relation bilatérale est assez difficile depuis ce temps.
Une relation très compliquée entre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et le président des États-Unis, Maya Kandel.
Oui, je crois qu'en effet, ça a été dit, hein, la clé de plusieurs de ces accomplissements se trouve au Congrès. Et avec cette dimension, une fois de plus, un Congrès républicain dont la motivation première semble être une haine d'Obama qui est quand même là depuis le début et qui va être là jusqu'à la fin. Et par exemple, sur le TPP, l'accord transpacifique, on sait que les républicains y sont majoritairement favorables. Mais je ne pense pas que cette majorité va vouloir donner cette ultime victoire à Obama. D'un autre côté, il pourrait très bien le voter, le ratifier juste après le départ d'Obama. Voilà. Concernant l'Iran, alors effectivement, on peut toujours s'attendre au vote de nouvelles sanctions. Là encore, si le prochain président est républicain, le Congrès sera quand même plus conciliant, plus obéissant. Alors que si c'est par exemple Hillary Clinton, qui elle a embrassé l'héritage d'Obama et veut le consolider, le maintenir, il est possible que là, un Congrès qui resterait républicain, ce qui est d'ailleurs à voir, hein, parce que le Sénat pourrait rebasculer côté démocrate en novembre. Mais face à Hillary Clinton, un Congrès républicain serait beaucoup plus combatif.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors la question de Cuba, elle pourrait prendre une place importante dans cette campagne. Les primaires, on a parlé dans la première partie de l'émission des candidats qui émergent. Je pense à Marco Rubio du côté républicain, Ted Cruz, Laurence Nardon, un commentaire.
Alors moi j'ai toujours, depuis le début qu'on parle de cette réconciliation avec Cuba, en termes de politique internationale, j'ai toujours trouvé que c'était quand même assez mineur cette réconciliation. C'est quand même une réparation qui aurait dû arriver bien plus plutôt d'un embargo qui servait plus à rien.
Mineur, mais extrêmement symbolique.
Symbolique, mais en politique intérieure plutôt. Ça change rien à la position stratégique des États-Unis dans le monde. Ça change beaucoup de choses pour Cuba, on est d'accord.
Et dans la relation des États-Unis avec l'Amérique latine, peut-être aussi.
Peut-être, oui, sans doute aussi, encore que l'anti-américanisme latino-américain s'était déjà déplacé depuis longtemps du côté de Hugo Chavez et comparses. Donc, je suis pas sûre que ça modifie l'opposition un peu idéologique que peuvent avoir les Sud-Américains, enfin certains Sud-Américains, vis-à-vis de leurs grands voisins du Nord. J'ai peut-être une déformation, vous avez raison, parce que je travaille sur les États-Unis, donc je regarde un peu depuis cet angle. Et je trouve que la question de Cuba, elle est plus importante pour la politique intérieure américaine, enfin états-unienne, que pour la politique étrangère états-unienne. Effectivement, ça peut sortir dans les débats de politique intérieure pour la campagne. Et en même temps, je ne sais pas trop, parce que c'est une arme à double tranchant pour les républicains, dans la mesure où, au sein de la communauté cubaine aux États-Unis, il y a une division sur ce sujet. C'est-à-dire que les anciennes générations, ceux qui ont vraiment fui personnellement en leur temps le régime castriste, il reste une opposition vraiment très dure et irréconciliable au régime de Raúl Castro aujourd'hui. Alors qu'on voit dans les générations plus jeunes des exilés cubains aux États-Unis, au contraire, l'idée que, bon, on peut peut-être se réconcilier, je pense que les jeunes Cubains qui sont aux États-Unis aujourd'hui, ils ont envie de pouvoir retourner voir leurs grands-parents avant qu'il soit trop tard. Et donc, même s'ils sont républicains, beaucoup d'entre eux sont favorables à cette réconciliation. Et donc, si quelqu'un comme Marco Rubio ou Ted Cruz, qui est également d'origine cubaine, commence à se servir de cette réconciliation pour attaquer Obama, ce qui est probable, ça pourrait ne pas les servir vis-à-vis d'une partie de la diaspora cubaine.
Et puis il y a un autre aspect qui est intéressant. Il y a d'une part cette fracture générationnelle, mais il y a aussi au sein de la population aux États-Unis d'origine hispanique au sens large, il y a une vraie fracture entre ceux qui sont d'origine cubaine et les autres. Et en fait, les Américains d'origine hispanique considèrent un peu les Cubains comme des privilégiés parce que eux, ils arrivent aux États-Unis, ils ont tout de suite un statut. Enfin, il y a une histoire vraiment très très différente. L'origine cubaine de Cruz ou de Rubio ne va pas être forcément quelque chose qui va leur apporter le vote hispanique, pour le dire clairement. D'autant plus que Hillary Clinton, en particulier, est très populaire chez les hispaniques pour des questions aussi de position sur les questions économiques et sociales, même si on souligne parfois que les républicains là ont quand même raté le coche, parce qu'il y a un certain nombre de valeurs, justement, dans la population hispanique qui est majoritairement catholique, et donc des valeurs sur la famille, le mariage, etc., où les républicains, s'ils avaient été un peu plus fins, auraient pu là récupérer un électorat qui sera crucial pour l'avenir.
Alors, plusieurs questions pour avancer un peu davantage sur les questions de politique étrangère et de bilan d'Obama. La première, peut-être, est-ce que Barack Obama a changé quelque chose en profondeur dans la politique étrangère américaine? Alors, d'aucuns lui reprochent d'avoir été trop modéré, c'est une question. Et un élément sur lequel j'aimerais vous interrogez, Laurence Nardon, vous organisiez à l'IFRI récemment une journée d'études sur les questions nord-américaines. J'ai tout de même été surprise d'entendre qu'aujourd'hui, les Américains, d'une certaine manière, faisaient retomber la responsabilité de l'échec sur l'Irak aux pays qui n'ont pas accompagné les États-Unis dans l'expérience, en disant que finalement, si les Américains avaient été davantage soutenus, bien, les choses auraient été faites en grand et l'Irak n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. C'est tout de même assez extraordinaire d'entendre ce positionnement aujourd'hui de Washington sur la question irakienne.
Oh bah oui, mais il y a une historiographie en train de se faire de cette débâcle à partir de 2003 en Irak qui est extraordinaire, parce qu'effectivement, on voit des interprétations surgir de manière totalement inattendue. Il y en a une autre que je trouve très intéressante, c'est celle que proposent aujourd'hui, c'est une lecture que proposent aujourd'hui les néoconservateurs à Washington, qui disent qu'en fait, eux, alors il y en avait un certain nombre dans l'administration Bush, voulaient donc envahir l'Irak, punir Saddam Hussein, pour ensuite reconstruire le pays dans le sens du libéralisme économique, de la pluralité politique, enfin construire une démocratie en Irak. Et qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été trahis, ces néoconservateurs, au sein de l'administration Bush, par les nationalistes qui étaient le secrétaire à la défense,
Rumsfeld,
le vice-président Dick Cheney, etc., qui étaient des nationalistes purs et durs, qui ont juste envahi l'Irak, tué Saddam Hussein, comme on s'en souvient, et ensuite n'ont plus rien voulu faire sur place, pas de reconstruction. Et dans leur analyse actuelle, c'est parce qu'il n'y a pas eu de reconstruction que nous en sommes là où nous en sommes. Il y a aussi ceux qui disent que tout est de la faute d'Obama, parce que malgré le surge qu'il a fait en 2010, il a ensuite retiré les forces américaines du pays, c'était bien trop tôt. Mmh. Enfin voilà, il y a tout un tas d'analyses qui cherchent à
dédouaner
l'administration Bush dans son invasion du pays.
Donc une histoire extrêmement revisitée, Maya Kandel.
Oui, moi je trouve qu'il faut quand même dire que la réécriture de l'histoire, et notamment la réécriture du Surge en 2007, et de l'Irak globalement, c'est une réécriture faite par les néoconservateurs et qui est quand même d'une mauvaise foi absolue. Toutes les bonnes analyses sur le Surge de 2007 en Irak disent que c'est pas tant le fait d'avoir envoyé 100 000 soldats américains de plus qui a changé la situation, c'est le fait d'avoir retourné, si je puis dire, les tribus sunnites, c'est ce qu'on appelle le mouvement du réveil, c'est ce qu'on essaye la coalition derrière les États-Unis de faire aujourd'hui en Irak, et oublier ce facteur-là en disant que c'est uniquement une question de nombre de forces américaines, et c'est-à-dire ce raisonnement qui ensuite dit et donc comme Obama a retiré toutes les troupes en 2011, tout est de sa faute, c'est quand même d'une parfaite mauvaise foi.
On est bien d'accord, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce débat court déjà pour commencer. La question qui vient derrière, c'est quel écho ce débat a-t-il vraiment, et quel degré de crédibilité accordé, Laurence Nardon?
Dans la mesure où c'est un débat sur l'histoire de la décennie passée, je pense pas qu'il intéresse grand monde en réalité dans le grand public américain. Dans la campagne qui est en cours, quand on va parler de politique étrangère, il y aura un marqueur qui est dans la même région que l'on voit apparaître et qui porte sur la situation en Syrie. Que faut-il faire? Ce débat est là depuis longtemps. Ce qu'on voit apparaître comme vraiment un marqueur entre les candidats, c'est faut-il exiger le départ de Bachar el-Assad ou pas? Et en fait, cette question qu'on pose dans les débats, il y a eu un débat entre candidats républicains, je crois que c'était le 15 décembre dernier, qui portait sur la politique étrangère. Et cette question-là, c'était vraiment ce qui différenciait les uns des autres. Parce que ceux qui veulent son départ immédiat sont plutôt les idéalistes, qui considèrent que c'est un tyran, donc il faut de toute manière qu'il parte, et ensuite on discute. Et les réalistes, il y a toujours ces grands courants de pensée dans la politique étrangère américaine, donc les idéalistes, les réalistes, je suis en train d'en parler, il y a les interventionnistes, les isolationnistes, tout ça des noms compliqués, mais qui servent à mettre des étiquettes sur les courants de pensée auxquels adhèrent les candidats. Et donc, les réalistes disent pour leur part que Bachar el-Assad est certes un tyran, mais que dans la mesure où il stabilise, il stabiliserait la région, il ne faut pas exiger son départ en premier. Il faut commencer par rétablir une sorte de paix dans la région. Donc bon, tout ça, c'est loin d'être concrétisable facilement. Mais mettons que c'est l'un des enjeux des discussions de la campagne qui vont être notables.
Maya Kandel.
C'est vrai que la politique étrangère, pour l'instant, n'est pas encore vraiment un enjeu. Traditionnellement, aux États-Unis, alors là, il y a des études très sérieuses qui montrent que c'est rarement un critère de choix. Sauf que bon, il y a parfois des exceptions. Et cette année, alors, il y a le cas de figure auquel tout le monde pense, mais dont on préfère pas parler, qui serait celui d'un événement dramatique exceptionnel survenant dans les semaines avant le vote, un attentat. J'espère que ce sera pas le cas, qui aurait évidemment un impact sur le vote. Sur les primaires, la politique étrangère peut avoir une influence. On l'avait vu en 2008 dans les primaires démocrates entre Obama et Hillary Clinton, l'opposition d'Obama à l'Irak, alors que Hillary Clinton, elle, avait voté pour l'intervention de 2003, ça avait joué. Voilà, là, je trouve ce qu'on voit pour l'instant, c'est d'une part, alors, un impact de l'Irak quand même dans les positions des candidats républicains, c'est-à-dire que ils sont tous très nationalistes, ça c'est toujours le cas pour le camp républicain. Il y a un côté concours de mal alpha où je serai Obama est faible, moi je serai fort. Bon, ça ils le disent tous, c'est un passage obligé. Pour autant, si on regarde vraiment les positions, on a en tête deux candidats, Cruz et Trump, qui sont finalement assez prudents sur la question de l'interventionnisme, en particulier Cruz qui a une position un peu, pas très cohérente, ambiguë, je parle même pas de Trump, mais Cruz, par exemple, n'est pas pour augmenter l'intervention, la présence américaine au Moyen-Orient. En fait, le candidat le plus classiquement néoconservateur interventionnisme aujourd'hui, c'est Marco Rubio. D'ailleurs, il a beaucoup de néoconservateurs dans ses conseillers, et lui, il est dans une ligne, le leadership américain, la promotion de la démocratie, donc un agenda néoconservateur qui n'est pas réellement dominant, je pense, aujourd'hui chez les électeurs républicains, mais qui reste dominant, en revanche, dans les think tanks, et c'est l'école de pensée la plus construite et cohérente, donc on voit encore cette influence.
Un mot de conclusion, Laurence Nardon ?
Non, mais effectivement, pour rebondir sur ce que dit Maya et ce que je disais auparavant, c'est tout à fait ça. Rubio veut un départ de Bachar el-Assad immédiatement avant de discuter, alors que Trump et Cruz sont beaucoup plus finalement sur la réserve, en disant non, non, n'exigeons rien, il faut juste essayer de stabiliser la situation.
En tout cas, voilà, cette campagne américaine, nous aurons l'occasion d'en reparler dans Géopolitique au fil des semaines et des mois à venir. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Maya Candel, responsable du programme sur les États-Unis à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire et chercheur associé à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Et Julien Zarifian, que nous avions dans la première partie de l'émission, qui est maître de conférence en civilisation américaine à l'Université de Cergy-Pontoise. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin et Léonore.